Et le journal vous est présenté par Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Le taux de chômage en France a diminué de 0,7 points au deuxième trimestre, mais c'est encore une baisse en trompe-l'œil. Dans un instant, nous reviendrons sur les chiffres du Bureau international du travail.
Les cas de Covid-19 augmentent en France. La mairie de Paris envisage de tracer les clients des cafés et restaurants pour limiter la propagation du virus. L'idée ne plaît pas beaucoup aux commerçants.
Ils auraient dû rentrer dans leur pays d'origine cet été, mais la crise sanitaire a bouleversé leurs plans. Des étudiants étrangers sont bloqués en France, ils sont parfois seuls, avec peu de ressources. Reportage à suivre.
Un ex-fonctionnaire libanais dénonce la corruption qui gangrène l'administration du pays. Témoignage inédit à écouter dans ce journal.
La communauté algérienne se mobilise pour défendre la liberté d'expression. Un journaliste a écopé de 3 ans de prison pour avoir couvert le Irak, la contestation populaire en Algérie.
L'Amérique est en manque criant d'un dirigeant, assure Kamala Harris. La sénatrice et possible future vice-présidente s'est exprimée hier aux côtés de Joe Biden, candidat démocrate à la Maison-Blanche.
Et nous reviendrons sur leur première apparition hier avec notre correspondant aux États-Unis. Les chiffres du Bureau international du travail viennent de tomber. Conclusion, le chômage en France a diminué de 0,7 points au deuxième trimestre pour s'établir à 7,1%. Et cela dans un contexte de crise sanitaire, de crise économique. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
C'est une baisse, oui, mais en trompe-l'œil.
Oui, comme le trimestre précédent. Pourquoi ? Eh bien parce qu'un chômeur au sens du BIT est quelqu'un qui cherche activement un travail. Or, lors du deuxième trimestre, 6 semaines sur 13 ont été des semaines de confinement. Et des secteurs entiers ont été à l'arrêt, l'aérien, l'hôtellerie-restauration, les commerces non essentiels. Ça a bien sûr joué sur les comportements de recherche d'emploi. Pour se faire une idée plus globale de la situation, il faut donc regarder les autres indicateurs et notamment ce qu'on appelle le halo du chômage. On parle là des personnes qui se déclarent disponibles pour travailler mais ne sont pas en recherche active d'emploi. Et là, eh bien, ce halo a bondi, hein, leur nombre a bondi de 767 000 par rapport au premier trimestre. Cet indicateur atteint même son plus haut niveau depuis 2003, date à laquelle l'INSEE a commencé à le mesurer. Autre donnée intéressante, le sous-emploi, là aussi il atteint un niveau inédit, représentant désormais 20% des personnes en emploi, une situation liée au chômage partiel qui a engendré une forte augmentation des déclarations de journées non travaillées.
Voilà donc pour ces chiffres du deuxième trimestre. Anne-Laure, du côté du gouvernement, on prépare désormais la rentrée pour éviter une aggravation de la situation sur le front de l'emploi.
Oui, la façon dont se passera la rentrée sera déterminante, a récemment dit la ministre de l'Emploi, Elisabeth Borne. L'exécutif a déjà déployé une batterie de mesures pour contenir la hausse du chômage, essayer en tout cas. Prime pour l'embauche d'un jeune de moins de 25 ans, activité partielle de longue durée et limitation du travail détaché. Cela sera-t-il suffisant face à la crise? Ce qui est sûr, c'est que l'objectif de plein emploi envisagé avant cette pandémie pour 2022 paraît désormais hors de portée. Le gouvernement l'a d'ailleurs récemment renvoyé à 2025.
Anne-Laure Jumet, chef du service économie de France Culture. L'augmentation est inédite depuis le mois de mai. Plus de 2500 cas de Covid-19 ont été enregistrés en France ces dernières 24 heures. Au total, plus de 11 000 personnes ont été diagnostiquées positives en une semaine. La Direction générale de la Santé voit ses indicateurs se dégrader très nettement. La circulation du virus progresse sur le territoire. Des résultats plutôt mauvais, alors que le contrôle de l'épidémie est fragile et la crainte d'une deuxième vague toujours présente. La mairie de Paris veut rapidement mettre en place un dispositif de traçage des clients à l'entrée des cafés et des restaurants. Encore faut-il convaincre les gérants, Nicolas Ballu.
Oui, la mairie préfère parler d'un dispositif de rappel plutôt que de traçage. Les clients indiqueraient leurs coordonnées téléphoniques ou leur adresse mail sur un registre à l'entrée de l'établissement. Ils seraient rappelés par des autorités de santé en cas d'exposition à un cas de Covid-19. Les données, elles, seraient supprimées par les gérants au bout de 3 semaines. Les cafetiers parisiens sont plutôt sceptiques. Ils ont peur d'être encore pénalisés. Ils ont perdu la moitié de leurs clients en juillet 2020 par rapport au même mois de l'an dernier. Alain Fontaine, le président de l'Association française des maîtres restaurateurs.
Déjà qu'on vous reçoit avec un masque, en plus on va vous demander votre numéro de téléphone. À quand le passeport ou la carte d'identité? À la limite, les gens auront plus intérêt à rester devant leur machine à café dans les bureaux pour prendre leur café. Il n'y aura plus aucun intérêt à descendre dans un endroit chaleureux, convivial.
Le dispositif fonctionnera sur le volontariat. C'est un pari, admet Anne Souiri, l'adjointe au maire chargée de la santé publique.
Nous ne pouvons pas imposer aux Parisiens, aux Parisiennes, ni aux touristes de le faire, ni aux restaurants et cafés. En revanche, nous pouvons inciter à le faire et on verra bien. si jamais ça ne marche pas, moi je fais le pari que ça a marché, mais que si ça ne marche pas, là, il faut faire appel à la préfecture pour demander d'aller plus loin et d'aller plus vers une obligation comme ça se fait dans certains pays, pour éviter là encore que ces restaurants, ces cafés, ces lieux publics ne ferment. Parce que notre objectif, c'est quand même pas de revivre le confinement.
La mairie de Paris doit encore rencontrer les restaurateurs et les cafetiers, peut-être dès la semaine prochaine.
C'est l'une des conséquences de la crise. Certains étudiants étrangers en France n'ont pas pu rentrer dans leur pays d'origine pour rendre visite à leur famille. Soit l'épidémie ne le permet pas, soit les billets d'avion sont trop chers. Ils passent donc l'été dans l'Hexagone, sans emploi, sans stage, parfois isolés dans leur résidence parisienne où s'est rendue Pauline Joss.
Si les allées de la Cité universitaire internationale semblent abandonnées, il ne faut pas s'y tromper. Il y a bien des étudiants qui vivent ici cet été. C'est le cas de Karan Vir, tout juste diplômé de Sciences Po, qui ne peut toujours pas retrouver sa famille en Inde.
Je suis en difficulté financière et ça commence à avoir des conséquences sur mon moral. Parce que c'était déjà compliqué de trouver un travail avant la crise sanitaire, même en étant diplômé. Maintenant, c'est vraiment très difficile. Et comme je ne peux même pas voir mes parents, la situation devient vraiment anxiogène. En plus, mes parents sont eux aussi en difficulté. Mon père vient tout juste de perdre son travail à cause de la Covid-19.
Pour compenser les pertes de revenus, faute d'emploi étudiant ou de stage, l'État a mis en place des aides financières auxquelles s'ajoutent des initiatives solidaires, comme à la Maison du Maroc où vit Sadadir.
Pour notre cas ici à la Maison du Maroc, ils nous ont bien aidés en fait. Ils nous ont même donné des primes en fait pour alléger le loyer parce qu'on n'avait pas de job étudiant en parallèle. Pendant Ramadan aussi, ils nous ont donné des repas gratuits.
Et sans ça, ça aurait été compliqué ?
Ouais, ça aurait été bien plus difficile, c'est sûr.
Anna Maria est colombienne et doctorante en anthropologie. Au regard de la situation sanitaire dans son pays, c'est pour elle très difficile d'être loin de sa famille.
On est toujours comme dans une incertitude, déjà parce qu'il y a une précarité étudiante très forte. Et maintenant, avec cette pandémie, franchement, je ne sens pas que j'ai d'horizon.
Malgré cet horizon confus, Anna Maria garde l'espoir de pouvoir rentrer à Bogota en novembre pour l'anniversaire de sa mère.
3 milliards d'euros du plan de relance de l'économie française seront consacrés aux PME pour soutenir financièrement les petites et moyennes entreprises et leur permettre de se développer. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire l'a annoncé hier dans une interview au journal Sud-Ouest. Ce plan de 100 milliards d'euros en tout doit être officiellement présenté fin août. Le comité social et économique chez HOP se termine aujourd'hui à Nantes. La direction d'Air France présente son plan de départ volontaire pour sa filiale régionale. On sait déjà qu'elle entend supprimer près de la moitié des 2400 postes de la compagnie aérienne et que les sites de Morlaix, Lille et Orly sont voués à la fermeture. La CGT compte amplifier sa lutte et continuer à se battre contre ce plan qu'elle juge inacceptable.
France Culture 8h08, Margot Delpierre, Beyrouth est dévastée et les dégâts causés par l'explosion meurtrière de la semaine dernière sur le port ont un coût.
Plus de 15 milliards de dollars pour essuyer les pertes, estime le président libanais. À l'origine de cette explosion, 2700 tonnes de nitrate d'ammonium stockées dans un entrepôt depuis 6 ans, sans mesure de précaution. À ce sujet, le parquet libanais va interroger dès demain des ministres et ex-ministres. La population en colère attend leurs explications. Lui était en poste depuis les années 2000, numéro 2 du ministère des Finances. Alain Bifani a démissionné avec fracas fin juin, alors qu'il faisait partie de l'équipe libanaise de négociation avec le FMI. Il revient sur son expérience passée au cœur d'une administration qui semble impossible à réformer tellement elle est corrompue et livre quelques pistes pour que le Liban remonte la pente. C'est un témoignage exclusif recueilli par Christian Chesneau.
Il a finalement jeté l'éponge, écœuré par l'influence de l'oligarchie politico-financière qui a mené le pays à la faillite. À contre-cœur, Alain Bifani a décidé de claquer la porte du ministère des Finances. C'était fin juin, il faisait alors partie de l'équipe d'experts libanais qui négociait avec le FMI.
Je pensais que la moindre des choses était que ceux qui ont profité du système soient les premiers à contribuer, et non pas qu'ils soient justement les plus protégés, et qu'il balance toutes les pertes qu'on a accumulées au sein de la Banque centrale et dans le système bancaire sur le malheureux déposant et sur le citoyen lambda.
Alain Bifani estime à environ 6 milliards de dollars l'évasion financière des personnalités influentes vers des comptes à l'étranger. Pour lui, le redressement du Liban passe par une nouvelle gouvernance.
Je crois qu'il y a des urgences partout, mais la première urgence, c'est que les gens sentent que la justice ne s'arrête plus à un certain niveau, qu'elle est capable de monter jusqu'au plus haut de la pyramide. Lorsque les Libanais verront les premières grandes têtes tomber, eh ben, ils seront rassurés et les autres têtes auront intérêt à bien se comporter à partir de ce moment-là.
Des sanctions ciblées contre les corrompus pourraient, selon lui, appuyer cette opération main propre dont rêvent tous les Libanais.
Christian Chesneau. Emmanuel Macron s'est dit très préoccupé par la situation en Biélorussie après la réélection au dimanche du président autoritaire Alexandre Loukachenko. Le chef de l'État l'a dit à son homologue russe Vladimir Poutine hier. C'est la première fois qu'il s'exprime sur cette élection marquée par des soupçons d'irrégularité et suivie depuis de manifestations violemment réprimées par la police. Hier, un deuxième manifestant est mort et l'hypercentre de la capitale Minsk bouclé, les stations de métro fermées. Jusqu'où peut aller la contestation en Biélorussie? Nous y reviendrons dans les matins d'été après ce journal. Il a été condamné lundi à 3 ans de prison pour avoir couvert le soulèvement populaire qui a secoué l'Algérie pendant plus d'un an. Une manifestation en soutien au journaliste Khaled Drareni a eu lieu hier devant l'ambassade à Paris. Le correspondant à Alger de la chaîne TV5 a été reconnu coupable par la justice algérienne d'incitation à un troupement non armé et d'atteinte à l'unité nationale. Ils étaient une quarantaine hier à crier leur colère et à défendre la liberté d'expression, Sébastien Berriot.
Lorsqu'ils évoquent la condamnation de Khaled Drareni, les manifestants ne parlent pas de décision judiciaire, mais bien d'un acte politique qu'ils attribuent au pouvoir algérien. Pour Amara Ben Amara, du mouvement Union pour l'Algérie, cette condamnation a d'ailleurs un objectif bien précis.
À mon avis, ils veulent faire peur, ils veulent museler la presse. Ils ont surtout peur qu'à la fin de la pandémie, qu'il y ait une reprise de la révolution en cours. Ils sont en train de tout faire pour faire peur à la population, pour faire peur aux médias, pour que les gens ne redescendent pas dans la rue. Parce qu'ils sont sur un fil. Depuis maintenant un an et demi, la lutte ne cesse pas.
Pour Yassine, le journaliste condamné n'a fait que son devoir et il y a une vraie injustice.
Drareni et tous les détenus sont des Algériens qui ont été condamnés par l'injustice algérienne en Algérie pour avoir aimé l'Algérie. C'est ça leur tort. Ils ont aimé l'Algérie. Ils sont condamnés pour ça.
Cette lourde peine inquiète particulièrement la diaspora algérienne qui vit en France. Sonia se demande comment elle va désormais pouvoir s'informer librement sur son pays d'origine si les journalistes indépendants ne peuvent plus travailler.
On écrase une valeur qui est la liberté d'informer. Parce que maintenant, on a quoi? On a que des journalistes qui sont à la botte du pouvoir, qui nous désinforment en fait de ce qui se passe réellement là-bas.
Les soutiens de Khaled Drareni en France veulent multiplier les manifestations. Ils vont demander à la mairie de Paris d'installer un portrait géant du journaliste sur la façade de l'hôtel de ville.
La France demande à la Grèce et à la Turquie de calmer le jeu des tensions provoquées par Ankara qui souhaite explorer des zones pétrolières en Méditerranée orientale. La découverte de gisements a aiguisé l'appétit des pays riverains. Paris va renforcer sa présence militaire dans cette région sans donner plus de détails pour le moment. Le tandem est apparu ensemble hier à Wilmington. Joe Biden et Kamala Harris, le candidat démocrate à la Maison-Blanche et sa colistière désignée la veille, la sénatrice californienne, pourrait devenir la première femme noire vice-présidente des États-Unis. Le duo promet de reconstruire le pays une fois Donald Trump mis dehors. Loïc Loury a suivi leur discours.
À moins de 3 mois de la présidentielle, le décor, un gymnase presque vide, n'a pas la pompe de circonstances. Covid oblige, il faut faire avec. C'est donc ici, dans sa ville de Wilmington, que Joe Biden a présenté sa nouvelle colistière. Kamala est intelligente, forte, elle a de l'expérience, elle sera prête pour ce travail le premier jour. Nous sommes tous les deux prêts à travailler pour reconstruire ce pays. Entre le candidat et la sénatrice, la complicité semble sincère et c'est solennel qu'elle monte à la tribune et souligne le caractère historique de sa nomination.
I'm so proud to stand with you.
Je suis si fier d'être ici avec toi et je le suis en pensant pleinement à toutes les femmes ambitieuses, héroïques, dont le sacrifice rend possible aujourd'hui ma présence ici. Née d'un père jamaïcain et d'une mère indienne, Kamala Harris évoque aussi ses origines ou sa proximité avec les Biden, mais elle attaque surtout Donald Trump sur sa gestion de la crise sanitaire, le sujet de cette campagne. Il y a une raison pour laquelle cette crise a frappé l'Amérique plus durement que n'importe quel autre pays développé. C'est à cause de l'échec de Donald Trump. Car pour reconstruire le pays, il faudra d'abord gagner le 3 novembre.
Thank you and may God bless the United States of America.
Loïc Lourie, correspondant de France Culture aux États-Unis. En France, les températures baissent. Enfin, il n'y a plus aucun département en alerte rouge canicule, mais 21 sont toujours en vigilance orange dans l'est de la France. Le temps est encore instable avec des averses, des coups de tonnerre attendus sur une grande partie du pays. Cet après-midi, il devrait faire au maximum 27 degrés à Paris et Lyon, 29 à Lille, 22 à Nantes et 28 degrés à Nice.